Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Pince-mi tombe dans l'eau. Qu'est-ce qui reste? Oui, c'est Pince-mi qui tombe. Mais qu'est-ce qui reste dans le bateau?
Ainsi donc, il n'y aurait plus rien à faire qu'à mettre la clé sous la porte de ce château sombre et désert où gisent nos illusions mortes. Ainsi donc, vite fait serait l'inventaire de ces chambres abandonnées, au lit recouvert de poussière, au parquet noir de sang séché. Et sur les carreaux des fenêtres, on pourrait écrire à la craie, tout demain devra disparaître des choses que l'on a cru vraies. Et dans ce monde à la dérive, pareil aux autres animaux, nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo.
Bonjour tout le monde. Alors, pour un philosophe, pour un professeur de philo, il y a deux défis. Le premier, c'est d'être bref. Le deuxième, c'est de ne pas être chiant. Or, j'ai à vous parler de quelque chose de très chiant cet après-midi, c'est la liberté. Et en particulier, le temps libre. Alors, la liberté, c'est le thème de cette chanson de Jean Ferrat, qui date de 1991 et qui s'appelle « Dans la jungle ou dans le zoo ». Dans laquelle Ferrat fait référence à un choix entre d'un côté la jungle, c'est-à-dire le capitalisme, qui repose sur l'idée d'une concurrence libre et non faussée, et de l'autre le zoo, c'est-à-dire les états totalitaires, en particulier dans la mémoire de Ferrat, c'est le stalinisme, et puis tout ce qui est allé avec. Donc, traditionnellement, jungle et zoo apparaissent comme les deux antagonismes qui encadrent la liberté. D'un côté, vous avez la jungle qui est l'excès de liberté, hein, comme le disait au XVIIe siècle Thomas Hobbes, un penseur politique britannique, parlait de l'excès de liberté comme un état de nature. Il disait la guerre de tous contre tous et de chacun contre chacun. Il n'y a aucune règle, aucune contrainte. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est l'excès de contrainte, le zoo. Le despotisme, la tyrannie, la dictature. Alors en réalité, cette distinction, je pense, n'est pas tout à fait valable, malgré tout mon amour pour Jean Ferrat. En effet, des tas d'exemples aujourd'hui nous prouvent que jungle et zoo cohabitent parfaitement bien. Alors, prenez par exemple l'espionnage des usagers d'Internet. Vous avez vu récemment l'affaire... qui a frappé Facebook. Donc dans un cas, vous avez un État comme la Chine qui espionne les usagers d'Internet, donc au nom de l'État, au nom de la loi, et de l'autre, en Occident, ce sont des entreprises privées qui font exactement la même chose. Donc qualitativement parlant, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça ne change pas grand-chose que ce soit l'État ou que ce soit le marché qui nous espionne. En réalité, l'une des caractéristiques de nos États surdéveloppés, c'est véritablement l'alliance de la jungle et du zoo. Pour continuer dans cette image, figurez-vous ces zoos, vous êtes peut-être comme moi des amateurs de zoos, vous avez des cages dans lesquelles on reproduit l'environnement naturel, admettons de l'orang-outan par exemple, alors avec des faux arbres, d'accord, une fausse jungle à l'intérieur d'une cage. Alors moi, je trouve que cette image est particulièrement bonne pour décrire la société actuelle. Nous avons une illusion de liberté, mais dans un cadre extrêmement strict, extrêmement contraignant. Alors en fait, je dis aujourd'hui, mais un philosophe comme Platon, il y a 2500 ans quasiment, avait déjà eu cette intuition-là, pour ceux qui connaissent Platon, dans un livre qui s'appelle La République. Il prend une image, on appelle ça l'allégorie de la caverne, dans laquelle vous avez des prisonniers qui sont prisonniers depuis toujours, hein, ils ont toujours vécu dans cette caverne, et ils croient que les ombres qui sont projetées contre le mur sont la réalité. En réalité, bien sûr, c'est faux. La réalité se situe à l'extérieur de la caverne, à la lumière du jour. Sauf qu'un jour, raconte toujours Platon, le philosophe vient leur dire « Mais non, c'est pas la vérité ce que vous voyez dans la caverne. La vérité, elle est à l'extérieur. » Et que se passe-t-il ? Eh bien, les prisonniers le saisissent et le tuent. Parce que nous sommes attachés à notre cage, nous sommes attachés à notre caverne. Et pour continuer à vous parler de Platon, il y a une autre image que j'aime beaucoup. Platon, c'est plein d'images, hein. C'est super, c'est très agréable à lire. Et il y a une autre image que j'aime beaucoup, celle-là, elle est dans le Gorgias. Il est question dans le Gorgias de qu'est-ce que c'est la vie heureuse. Ce qui est en fait une question que les Grecs se posaient beaucoup, hein. Comment être heureux. Et Platon donne une image, c'est l'image d'un oiseau qui s'appelle le pluvier, et je cite, hein, c'est un oiseau qui mange et qui fiente en même temps. Et il se sert de cette image pour illustrer le fait que dès que nous satisfaisons un désir, un autre va prendre sa place. À peine nous satisfaisons un désir, un autre vient le remplacer. Comment ne pas y voir un rapport avec la société de consommation actuelle ? Et pourtant, encore une fois, cela a deux millénaires. Alors là, vous êtes en train probablement de vous dire, ça fait déjà 5 minutes qu'il parle, quel rapport ça a avec le temps libre ? Il s'agissait tout de même de contextualiser un tout petit peu. Mon hypothèse, que je vais essayer de développer devant vous, c'est que le temps libre n'existe pas. Plus exactement, le temps libre n'existe pas encore, et c'est à nous de le construire. C'est, à mon avis, l'enjeu des luttes sociales. Plus exactement, ça doit être l'enjeu des luttes sociales de demain. Avant de vous parler de ces luttes sociales de demain, un tout petit point sur les conceptions classiques du temps libre. Alors, je vais aller très vite. Le temps libre, c'est le temps qu'on ne consacre ni aux activités biologiques, manger, dormir, boire, ce qu'on appelle le temps de repos, hein, ni le temps que l'on consacre aux activités rémunérées, aux activités de travail, aux activités de production. Donc c'est un temps qu'on peut consacrer à tout ce qui n'est pas nécessaire à la survie. C'est, pour le dire encore autrement, le temps qui échappe à ces deux facettes de la même médaille que sont d'un côté la production et de l'autre la consommation. J'ai été très frappé, depuis toutes ces années où j'enseigne, de voir chez les adolescents, à 17-18 ans, que pour eux, la conception de la liberté, c'est effectivement, alors ça, ils ont bien compris, le travail, ça s'oppose à la liberté, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour eux, leur conception de la liberté, c'est la possibilité de jouir sans entrave. C'est la possibilité de consommer sans aucune contrainte. Nous sommes en mai 2018, hein, et ce serait tout de même malheureux que ce soit ça notre seul héritage de mai 68. Cette idée qu'il est interdit d'interdire et que nous devrions pouvoir consommer toujours plus, n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Moi, je pense que c'est pas ça notre seul héritage. Mais ça l'est pour quand même un certain nombre de personnes. L'enjeu principal du mouvement ouvrier, depuis deux siècles, a été d'augmenter toujours plus le temps libre. Je rappelle pas toutes les mesures qui ont été prises dans ce sens, mais je veux juste en rappeler deux, qui encadrent le temps de travail que l'on consacre dans une vie, c'est-à-dire le départ à la retraite et l'âge légal de travail, donc l'interdiction du travail des enfants. C'est-à-dire de dire qu'il y a aussi dans le temps de la vie des moments qui doivent être protégés du travail, et pas parce que une lubie X ou Y, mais parce que sinon, si la vie n'est consacrée qu'à travailler, alors cette vie n'est pas digne de ce nom. Et ça, c'est très important, c'est une idée qui nous vient des Grecs et des Romains. Pour les Grecs, le temps de production et de repos sont des mots nécessaires, Donc c'est pour ça qu'on les confie plus volontiers, en tout cas pour le temps de production, on le confie plus volontiers aux esclaves. Le travail est indigne de l'homme libre. L'homme libre, dans la cité athénienne, ne doit pas travailler. Il doit se consacrer à ce que les Grecs appelaient la skolé. Donc skolé, c'est ce que nous on traduit par loisir. Mais skolé, vous entendez là-dedans la racine du mot scolaire, qui a donné donc l'école. Et de l'autre côté, tous les mots liés au travail sont des mots péjoratifs. Je rappelle que le mot travail, même en français, désigne l'accouchement, donc une activité douloureuse. En latin, travail se dit tripalium, qui désigne un instrument de torture à trois pieds. Et à ce tripalium, les latins opposaient l'otium, O-T-I-U-M, qui a donné l'oisiveté, l'oisif. Voilà, donc, j'oubliais aussi évidemment le récit de la Genèse, le travail apparaît comme la punition pour le péché originel. Bref, travail et repos marquent la part animale de l'être humain, et cette animalité n'est pas sans nous rappeler la chanson de Ferrat que je vous ai passée au début. Et pourquoi c'est la part animale? Parce que c'est la marque d'un temps cyclique. Nous travaillons pour manger, et nous mangeons, et nous dormons, pour pouvoir reconstituer notre force de travail pour retourner travailler le lendemain. Une idée extrêmement importante, beaucoup plus tard que dans l'Antiquité, mais dans les œuvres de Marx, et en particulier du jeune Marx. Nous travaillons pour vivre, mais en fait, nous vivons pour travailler. À ce cercle vicieux s'oppose tout ce qui est durable, tout ce qui n'est pas immédiatement consommable. L'art, la culture, la politique, et tout ça, ce sont les activités dignes de l'être humain. C'est aussi le temps de l'otium, le temps de l'oisiveté, c'est aussi le temps où nous pouvons nous poser des questions. C'est le temps où nous pouvons réfléchir, alors que le travail nous impose une logique, on dira, pour faire compliqué, extrinsèque, externe. C'est le patron qui nous dit à quel rythme nous devons travailler, c'est pas nous qui décidons ça. Et quand c'est pas le patron, c'est que c'est la machine, hein. C'est toute l'idée du travail à la chaîne, c'est le tapis roulant, d'accord, qui impose le rythme de travail, pas le travailleur. Et enfin, le temps libre, et ça j'y tiens beaucoup. C'est aussi le temps inutile, le temps où l'on peut ne rien faire du tout, même pas réfléchir, le temps où on ne peut rien faire. Et dans la modernité, c'est cette dimension-là du temps qui est combattue. Je parlais à l'instant du système de production qu'on appelle le taylorisme, je vais essayer de ne pas trop m'attarder là-dessus, mais le taylorisme, c'est l'idée selon laquelle il faut perdre le moins de temps possible. Le temps perdu, c'est une expression qu'on entend très souvent. Ah, ce jeune-là, pourquoi est-ce qu'il perd son temps à jouer aux jeux vidéo? Pourquoi est-ce qu'il perd son temps à traîner dans la rue? Au contraire, il s'agit de toujours gagner du temps. Ah oui, mais si tu fais comme ça, tu gagneras du temps. Autrement dit, tu augmenteras ta productivité. Augmenter la productivité, c'est ça le nec plus ultra du capitalisme. Pour vous donner quelques petits chiffres, le taux de productivité aujourd'hui n'a jamais été aussi énorme. Je suis allé voir les chiffres d'une organisation marxiste-léniniste très connue qu'on appelle l'OCDE. Vous n'allez pas en revenir, moi j'en suis pas revenu. Hein. Depuis 1970, le PIB français a été multiplié par 18. Il a doublé depuis 1995. Donc, multiplié par 18 en 50 ans, c'est une augmentation de 1700%, hein, pour ceux qui, comme moi, sont mauvais avec les chiffres. Dans le même temps, le temps de travail a diminué de 12,5%. De 1700%. Et 12,5%. Qu'est-ce que je veux dire ces chiffres? Oh, je vous en rajoute un quand même, parce que celui-là, je l'ai lu ce matin dans le Canard enchaîné, j'aime bien. Depuis le mois de janvier, les 13 plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 12% en moyenne, soit 1,8 milliard chacun depuis le mois de janvier. Ça s'appelle le ruissellement. Le ruissellement, c'est maintenant. Donc, d'un point de vue strictement économique, c'est une gabegie totale. Nous travaillons beaucoup trop. Nous travaillons 35 heures, c'est énorme. Et là, ce qui va se passer, inévitablement, c'est que, je vous l'annonce, c'est une bonne nouvelle, nous allons travailler beaucoup moins, puisque les machines peuvent travailler à notre place. Donc, nécessairement, le temps libre va augmenter. En tout cas, il commencera par augmenter pour une certaine partie de la population, c'est-à-dire la population non qualifiée, qui sera d'emblée exclue du marché du travail, et la réforme scolaire, la réforme Blanquer, est en train de mettre ça en place. Et les parcours sup, ça sert à ça. Ça sert à exclure une portion de la jeunesse du marché de l'emploi, parce que de toute façon, ils ne pourront pas s'y inscrire. Une machine pourra très bien faire la même chose à leur place. Donc, le taux de chômage ne diminuera plus jamais. Le ruissellement, c'est maintenant, d'accord ? Non. Le taux de chômage ne rediminuera plus de manière substantielle. Au contraire, il ne fera qu'augmenter. Bon, ben moi je dis tant mieux. Je dis tant mieux parce que si on peut éviter à des gens de devenir caissiers ou caissières, si on peut éviter à des gens de visser des boulons chez PSA, ben c'est bien. C'est nul ces métiers, vous comprenez ce que je veux dire ? Les gens ne les font pas par choix, ils les font parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, le problème qui se pose, c'est pas est-ce qu'on va avoir plus de temps libre ? On va avoir plus de temps libre. Le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est de ça dont il faut parler maintenant. Je vais vous faire une citation. J'espère que je ne suis pas trop long. Petite citation, Lys, tu me fais des grands signes, merci. D'Anna Arendt, dans La condition de l'homme moderne, je cite, « Ce que nous avons devant nous... » Pardon, fin des années 50, ce texte. Hein, je ne sais plus l'année exactement, 58 jours. « Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. » Elle ajoute, on ne peut rien imaginer de pire. Voilà. C'est-à-dire une société sans travail et avec rien à la place. Et dans le même temps, on nous incite de plus en plus à consommer. Et le temps libre est consacré quasiment essentiellement, quasiment exclusivement plutôt, à de la consommation. Le capitalisme, et c'est comme ça qu'il a survécu à la crise de 1929, ce qui a sauvé le capitalisme, c'est deux choses. C'est l'économie de guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, à partir des années 50, c'est la publicité. Et la consommation à crédit. C'est ça qui a sauvé le capitalisme. Donc, on est encore là-dedans. Ça ne me fait que s'accélérer. Hein, je suis désolé de m'en prendre toujours à notre président sans jamais le nommer. Donc, ça y est, il est nommé. Mais le nouveau monde, c'est n'importe quoi. Je veux dire... On vit encore dans un modèle productiviste qui date du 19e siècle et un modèle de consommation qui date des années 50. Donc le nouveau monde, on repassera. Ça va. Donc, le temps de loisir a été complètement phagocyté par le capitalisme. Il a été taylorisé. Alors en quoi ça consiste, cette taylorisation ? Elle repose sur trois postulats. Premièrement, tout ce qui existe peut... avoir une valeur marchande. Deuxièmement, le temps qui n'est pas consacré à produire de la valeur marchande doit disparaître. Troisièmement, comme la valeur et le temps peuvent être évalués de manière quantitative, autrement dit chiffrée, tout ce qui ne peut pas être évalué ne mérite pas d'exister. Donc, cette idéologie d'un temps utilitaire nous impose une forme de quadrillage incompatible avec le temps libre. Alors il y a une injonction, ce quadrillage il passe par des injonctions, alors il y en a une que j'aime bien, c'est l'injonction à pratiquer le sport. Hein, manger, bouger, vous savez, tout ça. Alors, qu'importe ce que vous faites, c'est hyper important de bouger, Il vaut mieux bouger, c'est bon pour la santé. Donc même courir sur un macadam qui vous explose les genoux au milieu des gaz d'échappement, c'est très bon pour votre santé. Petite anecdote, la société Adidas a eu la bonté d'installer dans ses bureaux des salles de sport et incite ses employés à y aller, non pas sur leur temps de travail, faut pas déconner, mais sur leur temps de pause du midi. La société, je vous jure que c'est vrai, j'ai trouvé ça hallucinant, Adidas a dit qu'ils allaient supprimer les réunions entre midi et 14h pour permettre à leurs employés d'aller à la salle de sport. C'est quand même... Et il faudrait voir ça comme un progrès, au lieu de dire, faire une réunion entre midi et 14h, mais c'est absurde. C'est idiot. Donc, je profite de cette occasion pour vous rappeler que non, le sport, c'est pas bon pour la santé. Je sais pas si vous avez vu le film Into the Wild. Dans Into the Wild, on a la démonstration que manger, c'est pas bon pour la santé, puisque si vous mangez une plante empoisonnée, vous mourrez. Ben, le sport, c'est pareil. Bon, le sport, c'est pas bon pour la santé en soi. Ça dépend à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi on le fait. Mais le sport, à quoi il sert profondément ? Ben, il sert à imposer l'idée que notre temps libre nous sert à acquérir des compétences. Notre temps libre nous permet de nous améliorer. Donc en fait, on ne sort pas de la logique du capitalisme. On en reste dedans. On développe des compétences, en l'occurrence sportives. Par exemple, le rythme cardiaque. Et aujourd'hui, il faut absolument, et je dis ça parce que je suis invité par une association d'éducation populaire, il faut qu'on se méfie de ça. Il faut se méfier de l'idée que quand on propose des activités à tout le monde, mais en particulier aux jeunes, c'est parce qu'on va développer des compétences. Alors, tous ceux qui travaillent dans des centres sociaux ou dans des colonies de vacances connaissent ça. Est-ce que vous avez déjà eu des sous, des subventions, en remplissant un dossier dans lequel vous disiez que votre projet, c'était que les enfants passent des vacances à la mer ? C'est pas un projet, on vous rionnez. Mais par contre, si vous développez les compétences psychosociales des enfants, là, vous aurez des sous, vous comprenez ? Donc, alors oui, il y en a un dernier, je fais vite, lire un livre. Alors, lire un livre, ça sert à rien. Par contre, développer des compétences cognitives, et ça c'est très bien. Donc ça, c'est la logique qu'on peut appeler la logique du coaching, la logique de la performance. Je vous renvoie à un très bon livre qui s'appelle L'Empire des Coachs, qui parle de ça. Donc, c'est l'individu entrepreneur de lui-même. D'accord ? Et on fait rentrer au maximum le temps libre dans la jungle de l'entreprise. La boucle est ainsi bouclée. Ah non, pas tout à fait, parce qu'il reste encore du temps. Il y a encore du temps qui échappe à ça. Et c'est là que va intervenir le divertissement. Donc, en plus de la jungle, le zoo. Le divertissement, là encore, je vais vous citer Hannah Arendt, dans un autre texte qui s'appelle « La crise de la culture ». Elle dit « La société de masse ne veut pas la culture, mais le loisir ». Et les articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. Ils servent, comme on dit, à passer le temps. Et le temps vide qui est ainsi passé n'est pas à proprement parler le temps de loisiveté. Alors, passer le temps. Il y a une autre expression très intéressante et très révélatrice, c'est se vider la tête. Moi, quand je demande à mes élèves, est-ce que t'aimes bien lire ? Je dis, ben non. Pourquoi ? Parce que lire, ça prend la tête. Mais non, on se vide la tête. Alors ça, c'est la fonction de la télévision. Et maintenant, plus personne ne regarde la télévision. Ça, c'était ma génération, nous, on regardait la télévision. Maintenant, on joue à des jeux débiles sur son smartphone. Mes élèves, dès qu'on a 5 minutes de pause, entre deux, vous voyez, si je fais un cours de 2 heures, au bout d'une heure, on fait une petite pause pour aller boire un verre d'eau et tout, ils se jettent sur leur téléphone. D'accord ? Ils vont passer les 5 minutes à pianoter, ou à répondre à un truc sur Facebook, ou à jouer à un jeu crétin. Et ce faisant, ils se vident la tête, réellement. C'est-à-dire qu'ils se lobotomisent tout seuls. Mais ça, c'est pas du temps libre. Ça, c'est pas de l'inactivité. C'est une forme d'activité. Alors moi, je fais une distinction entre d'un côté le « ne rien faire », ne rien faire, et de l'autre, le faire rien. Vous voyez ? Ils font quelque chose de nul, mais ils font quelque chose. Et en réalité, ils créent de la valeur. ils sont des agents involontaires du capitalisme. Parce que ce faisant, grâce à la pub, grâce aux clics et grâce à plein de choses, ils monétisent, ils créent de la valeur et ils réalisent ainsi à leur corps défendant le rêve du capitalisme. Hein, c'était Marx qui disait ça, parce que Marx a eu 200 ans, donc je profite pour le citer. On ne cite pas assez Marx. Marx disait que le rêve du capitalisme, c'était de produire de la valeur sans produire de la richesse. C'est-à-dire de produire uniquement de la valeur monétaire sans avoir besoin de passer par ce truc chiant de produire des objets. Parce que produire des objets, ça nécessite d'investir du capital, des machines, payer des salaires, tout ça c'est pénible. Non, l'argent qui fonctionne tout seul, c'est mieux. Voyez. Donc voilà, nous sommes actifs en permanence, et au lieu de prendre le temps, nous fluidifions le passage du temps, nous accélérons le temps. D'accord. Comme s'il fallait que le temps passe toujours plus vite. Alors, je vais devoir en arriver à ma conclusion, en tout cas une première conclusion, j'ai deux conclusions. Alors ma première conclusion, c'est que je veux simplement vous dire que je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur, là. Contrairement à ce que ça pourrait avoir l'air. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'aller au musée ou que lire du Platon, c'est fondamentalement mieux que d'aller au cinéma ou que de jouer à un jeu vidéo. Moi je vais beaucoup au cinéma, je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est pas grave de faire rien. Moi je pense même que c'est mieux d'aller voir un bon film ou de jouer à un bon jeu vidéo plutôt que de lire du Marc Lévy ou du Michel Onfray. Là ça c'était un jugement de valeur, c'est bon, il est gravé dans le marbre. À la base, j'avais noté sur mon papier un livre de développement personnel parce que ça me rend fou. Vous savez, les trucs qui vous disent comment être heureux. Alors ça, c'est génial. Le site de Tabac Info Service, c'est le truc qui donne le plus envie de se remettre à fumer. Ce qu'ils vous disent, à chaque fois que vous avez l'envie de fumer, dites-vous, je ne fumerai pas, et félicitez-vous à chaque fois que vous avez résisté à la tentation. Donc, j'en arrive à ma deuxième conclusion, la vraie cette fois. Il ne faut pas avoir peur de cette inactivité. Il ne faut pas avoir peur de s'ennuyer. Tout à l'heure, on parlait du ministère du temps libre. Il y a quelque chose auquel il faut qu'on fasse très attention, c'est que l'institution ne s'empare pas du temps libre pour l'encadrer. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas d'occuper les jeunes. Il faut faire gaffe à ça. Un ministère du temps libre, c'est à double tranchant, vous comprenez ? Ça permet aussi que les jeunes ne traînent pas dans la rue. Il ne faut pas avoir peur que les jeunes traînent dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait partie aussi d'un processus normal, un processus sain, qui est l'apprentissage de l'ennui. C'est très important de s'ennuyer, et aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer. Donc, c'est pas grave si pendant un moment... Si vous vous ennuyez, vous n'avez rien à faire. C'est plutôt même très sain. Et c'est d'autant plus sain que l'état d'avancement du capitalisme aujourd'hui nous conduit à une catastrophe écologique et que nous allons devoir faire face à une augmentation du temps libre, je l'ai dit, du chômage structurel de masse, mais aussi à une diminution des ressources. Donc, non seulement nous allons avoir plus de temps, mais nous allons aussi pouvoir moins consommer. Il est temps, aujourd'hui, que collectivement, parce que individuellement ça sert à rien, oui pardon, je me dépêche, que collectivement nous nous demandions qu'est-ce que nous allons pouvoir proposer comme vision de la société dans laquelle le temps libre, c'est-à-dire un temps profondément inutile, un temps ennuyeux, pourra avoir droit de cité. Il y a deux possibilités à ça, très vite, il y a deux possibilités à ça. Soit on propose un salaire universel, c'est toutes les propositions de Bernard Friot, je vous invite à lire ça, c'est ultra intéressant. Soit, autre proposition, on réclame la diminution du temps de travail, aussi je l'ai esquissé tout à l'heure. En tout cas, il faut absolument, impérativement, que nous réclamions quelque chose. Si nous nous contentons aujourd'hui de nous arc-bouter à défendre ce qu'on est en train de vouloir nous prendre et qu'on ne demande pas plus, nous avons perdu. S'il s'agit juste de défendre les 35 heures, nous avons perdu. Il faut réclamer les 20 heures. D'accord ? Et je veux juste faire une toute petite citation d'un auteur que j'aime beaucoup, que je vous invite à lire, qui s'appelle Gilles Châtelet. Gilles Châtelet, dans un texte qui s'appelle « Les loisirs, c'est la paresse performante ». Ça suffit. Ça, c'est Jupiter. Vous savez, c'est le dieu de la foudre. Il se venge. Les individus auront l'impression d'aller toujours plus vite et d'être plus libres de leurs choix. Or, ils seront toujours plus lents dans leur liberté et de plus en plus semblables. C'est la contradiction essentielle de la société des loisirs. On entend sans arrêt parler de temps de vivre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le but n'est pas de remplacer le chimique par le culturel, mais de vivre une vie plus intense. Je sais que c'est très optimiste, mais il est toujours très optimiste d'être du côté de l'esclave plutôt que de celui du maître, très optimiste d'être du côté des paysans en lutte, des grévistes et des jacqueries. Merci pour votre attention.